Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Économie, aide, mémoire » dirigé par Alain Beyton avec Emmanuel Buisson-Fenet et d'autres collaborateurs selon les éditions, est un ouvrage de synthèse consacré aux principaux domaines de la science économique. Il ne se présente pas comme un traité défendant une théorie unique, mais comme un outil de travail thématique destiné à organiser les notions, les auteurs, les mécanismes et les repères factuels nécessaires aux études et aux révisions. Le livre couvre la microéconomie, la macroéconomie, la monnaie et la finance, les relations économiques internationales, ainsi que les rapports entre État et économie. Sa démarche associe définitions, problématiques, éléments historiques, bibliographie et supports visuels tels que tableaux, schémas et graphiques. Cette formule vise à relier les modèles aux questions concrètes, par exemple la formation des prix, le chômage, l'inflation ou les crises. L'ouvrage privilégie donc une vue d'ensemble structurée, tout en signalant les recherches contemporaines à côté des références classiques. Il convient surtout à une lecture sélective, en appui de cours ou pour consolider des connaissances déjà engagées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, microéconomie, comprendre les choix des consommateurs, des producteurs et des marchés. La microéconomie constitue un axe central de cette aide-mémoire, car elle fournit le langage de base pour analyser les comportements individuels et la coordination par les marchés. Les notions relatives aux consommateurs, aux producteurs et à la formation des prix permettent de distinguer les choix effectués par les agents de leurs conséquences collectives. Un consommateur fait face à des ressources limitées et à des préférences, tandis qu'une entreprise combine des facteurs de production, supporte des coûts et cherche à adapter son offre aux conditions de marché. Le prix apparaît alors non comme un simple chiffre, mais comme un signal qui oriente décisions de production et d'achat. Cette présentation doit aussi conduire à examiner les hypothèses des modèles, la concurrence, informations disponibles, mobilité des ressources et rationalité des acteurs ne sont pas toujours réunies dans les économies réelles. Les situations de pouvoir de marché, les externalités ou les asymétries d'information montrent pourquoi un équilibre de marché peut être insuffisant ou inefficace. En réunissant les concepts fondamentaux et leurs limites, le livre fournit des repères utiles pour lire un graphique d'offres et de demandes, interpréter une politique de prix ou comprendre les motifs possibles de régulation publique. La microéconomie y est ainsi traitée comme une méthode de raisonnement et non comme une collection isolée de définitions. Deuxièmement, macroéconomie reliée production, emploi, inflation et politique économique. Le volet macroéconomique déplace le regard des choix individuels vers les grandeurs agrégées qui décrivent une économie nationale. Production, revenus, consommation, investissement, emploi, chômage et inflation forment un ensemble interdépendant. Une baisse de la demande peut réduire la production des entreprises et affecter l'emploi, tandis que la progression des prix modifie le pouvoir d'achat et les décisions des ménages. Cette interdépendance explique la place accordée aux politiques économiques. Les instruments budgétaires, monétaires ou réglementaires ne produisent pas mécaniquement un résultat unique, car leurs effets dépendent de la conjoncture, des anticipations et de la situation internationale. L'intérêt de la synthèse est de mettre en relation les grands débats théoriques avec les problèmes observables. Les oppositions entre approches accordant une place forte à la demande et analyse insistant davantage sur les mécanismes de marché permettent notamment de comprendre que chômage et inflation ne reçoivent pas une explication uniforme. Les informations historiques et factuelles annoncées par l'ouvrage donnent un cadre pour situer ces débats. Cette partie aide donc le lecteur à éviter deux réductions fréquentes considérées un indicateur isolément, ou croire que toute variation économique a une cause unique. Elle soutient une lecture plus rigoureuse des arbitrages entre croissance, stabilité des prix, emploi et soutenabilité des finances publiques. Troisièmement, monnaie et finance, analyser les mécanismes de financement et les crises. La monnaie et la finance occupent une place distincte dans le livre, ce qui est essentiel pour comprendre le fonctionnement d'une économie monétaire. La monnaie remplit des fonctions de moyens de paiement, d'unités de compte et de réservettes de valeur. Elle rend les échanges plus fluides, mais elle introduit aussi des questions de confiance, de création monétaire et de stabilité des prix. Le financement relie quant à lui les agents disposant de capacités de financement à ceux qui ont besoin de ressources pour consommer, investir ou couvrir leurs dépenses. Banques, marchés financiers et institutions publiques interviennent dans cette circulation des fonds. L'approche de synthèse permet de distinguer financement bancaire et financement par les marchés sans les présenter comme des mécanismes entièrement séparés. Les crises financières montrent précisément leurs interactions, une perte de confiance, une dégradation des bilans ou une contraction du crédit peut se transmettre à la production et à l'emploi. Les références de présentation signalent que les crises économiques et les réponses publiques font partie des thèmes abordés, ce qui donne à la finance une dimension macroéconomique et internationale. Le lecteur est ainsi invité à ne pas réduire la monnaie à la seule question des billets ou des taux, ni la finance à la spéculation. Ces domaines déterminent les conditions de crédit, les possibilités d'investissement et la vulnérabilité générale de l'activité économique. Quatrièmement, économie internationale, commerce, mondialisation et gouvernance mondiale. Le traitement de l'économie internationale élargit l'analyse au-delà du cadre national. Le commerce entre pays, les mouvements de capitaux, les taux de change et la mondialisation influencent directement les entreprises, les consommateurs et les politiques publiques. Les échanges internationaux peuvent permettre une spécialisation productive et élargir les débouchés, mais ils modifient aussi la répartition des activités, des revenus et des risques. Une synthèse sérieuse doit donc éviter de présenter l'ouverture commerciale comme bénéfique ou nocive par principe. Ses conséquences dépendent des structures productives, des qualifications, des règles de concurrence et des capacités de redistribution. Le livre associe ce domaine aux crises et à la gouvernance mondiale. Ce rapprochement est important, les interdépendances internationales peuvent diffuser rapidement des chocs financiers ou une baisse de la demande, alors que les instruments de politique économique restent largement organisés dans des cadres nationaux. Les questions de coordination entre États et institutions internationales deviennent alors centrales. Les tableaux, schémas et données factuelles annoncés dans la présentation soutiennent une lecture ordonnée de relations souvent complexes, notamment entre flux réels de biens et services et flux financiers. Cette partie offre ainsi un cadre pour comprendre pourquoi une décision monétaire, commerciale ou budgétaire prise dans un pays peut produire des effets hors de ses frontières et pourquoi la mondialisation doit être étudiée à la fois comme processus économique et comme enjeu de régulation. En dernier lieu, une méthode de révision fondée sur définition, auteur, faits et représentations visuelles. La particularité éditoriale de Economy Aid Mémoire réside dans son organisation comme instrument de consultation et de révision. Chaque chapitre rassemble des définitions, une problématique, des repères historiques et factuels, des indications bibliographiques, ainsi que des tableaux, schémas ou graphiques. Cette architecture est adaptée à une discipline où la maîtrise des termes ne suffit pas. Connaître la définition d'inflation, par exemple, ne dispense pas de distinguer ses causes possibles, ses effets distributifs et les réponses de politique économique. Les problématiques invitent à passer du vocabulaire à la question analytique, tandis que les références aux auteurs classiques, modernes et aux recherches plus récentes empêchent de figer les concepts. Les supports visuels ont également une fonction de raisonnement, ils aident à représenter une relation entre variables, une évolution dans le temps ou la structure de données économiques. Les avis disponibles décrivent un ouvrage dense et complet, particulièrement utile pour les concours et les études économiques, mais parfois exigeant pour un débutant isolé. Cette réserve est cohérente avec le format un aide-mémoire condense et ordonne, sans remplacer nécessairement une progression pédagogique détaillée. Son meilleur usage consiste donc à préparer un plan, vérifier une notion, comparer des approches et récapituler un chapitre de cours. Il valorise une lecture active, faite de retours réguliers entre synthèses, exercices, données et manuels plus développés. En conclusion, Economy Aid Mémoire convient prioritairement aux étudiants en économie, AES, LEA, sociologie ou sciences sociales, aux élèves de classe préparatoire et aux personnes préparant des concours où les fondamentaux économiques sont attendus. Il peut aussi servir aux lecteurs déjà familiarisés avec la discipline qui recherchent un ouvrage de référence compact par thème. Son bénéfice pratique est de réunir, dans une même structure, les définitions essentielles, les mécanismes explicatifs, les repères historiques, les auteurs et des outils de représentation. Cette combinaison facilite la préparation de révisions, la construction de fiches et la vérification rapide des liens entre un concept et ses implications. Sur le plan intellectuel, le livre encourage à articuler microéconomie, macroéconomie, monnaie, finance et mondialisation, plutôt qu'à apprendre ces domaines comme des compartiments étanches. Il se distingue des manuels introductifs, continus par une organisation plus dense, conçue pour la consultation et la synthèse, et des simples lexiques par la présence de problématiques, de mise en perspective et de documents visuels. Cette densité implique néanmoins une limite réaliste, les lecteurs sans base solide gagneront à le compléter par un cours ou un manuel plus progressif. Pour un usage de consolidation, son positionnement est particulièrement pertinent. Il ne promet pas de simplifier artificiellement la science économique, mais fournit une cartographie structurée de ses questions majeures, de ses concepts et de ses débats, incluant les enjeux de crise et de régulation contemporaine. Si vous souhaitez soutenir Alain Beytonnet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!